Je voudrais démarrer ce message par une petite blague. C'est l'histoire d'un petit ours un peu enrobé. Il se regardait devant une glace et se dit en lui-même « Mon corps n'est pas prêt pour l'été. Par contre, je suis prêt pour l'hiver. » Comme vous le constatez, dans cette petite blague, le petit ours n'était pas prêt pour aller à la plage. Sommes-nous prêts ou prêtes pour le retour du roi? C'est le titre du message pour aujourd'hui. Le titre est « Es-tu prêt pour le retour du roi ?» Je terminerai aujourd'hui l'évangile de Matthieu, le chapitre 24 de Matthieu, et je lirai à partir du verset 44 jusqu'au verset 51. Et puis nous aborderons le chapitre 25, les versets 1 à 46, et je vous laisserai lire tranquillement à la maison ces passages. Mais aujourd'hui, je vous lirai ces quelques versets pour terminer Matthieu chapitre 24, les versets 44 à 51. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses jambes pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous abordons la deuxième partie de la prophétie des chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu. La première partie du chapitre 24, l'atmosphère du discours de Jésus était manifestement juive. La lecture attentive de la deuxième partie nous révèle l'atmosphère a changé. Et cela va se voir par la confirmation des paroles proposées. Dans la section précédente de son discours, du chapitre 24, versets 4 à 31, Jésus parla directement de son retour sur terre. Il donna ensuite quelques applications et instructions pratiques à la lumière de ce retour. Il faut garder à l'esprit que l'application première de cette section s'adresse généralement à la génération future qui vivra les jours de la tribulation et qui attendra impatiemment la venue immédiate du roi en gloire. Ce passage peut aussi s'appliquer, comme pour la plus grande partie des Écritures, aux croyants vivant aujourd'hui et faisant partie du corps de l'Église. Dans ces chapitres, il n'est pas question de l'Église dans ces versets, mais tout comme il est dit au peuple de Dieu dans l'avenir d'être sur ses gardes, de veiller et d'être fidèle, de même les croyants d'aujourd'hui devraient aussi être fidèle et vigilant. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 44 du chapitre 24. Nous reprenons donc à partir de ce verset et nous regarderons aussi le chapitre 25 avec toutes les trois paraboles qu'il y a dans ce chapitre. Plusieurs exhortations nous sont données de la part de Jésus dans ces paraboles et dans ces quelques versets, donc nous allons essayer de les regarder les unes après les autres. Tout d'abord, première exhortation de la part de Jésus, la fidélité et la prudence, les versets 44 à 51, la fidélité et la prudence. Jésus s'adresse clairement à un serviteur, comme je viens de vous le lire. Cette illustration complète celle qui la précède, détaillant ce qui signifie être prêt pour la venue de Jésus. Le chrétien est d'abord un serviteur à qui son maître a confié la tâche de pourvoir aux besoins de ses gens pendant son absence. La preuve de sa fidélité, de sa sagesse, réside en sa persévérance à faire non sa propre volonté, mais celle de son maître. Le méchant, l'autre serviteur, par contre, consiste à se servir de sa position et de son autorité pour agir selon ses intérêts et manipuler ceux qui lui sont confiés. L'attente de son retour, de l'amour de son retour, devrait nous motiver à être fidèles et pleins d'amour les uns envers les autres, ce qui n'est pas le cas pour le deuxième serviteur. Cela me fait penser à ce conseil de l'apôtre Paul qui fit à Archippe: « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Colossiens chapitre 4, verset 17. Le Seigneur est proche, nous est dit par l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 5. Laissez-moi ouvrir une petite fenêtre dans la première leçon de cette première exhortation de la part de Jésus. Es-tu un serviteur fidèle et prudent? Est-ce que tu prends garde à ton témoignage? Est-ce que ta vie est à la gloire de Dieu? Le Seigneur est proche. Es-tu prêt? Non pas pour aller à la plage, mais pour aller au ciel. Deuxième exhortation de la part de Jésus, être un témoin prévoyant. C'est la parabole des 10 vierges. Je vous laisse la lecture du chapitre 25, les versets 1 à 13. Un mariage à l'époque de Jésus se déroulait en deux temps. D'abord, l'époux et ses amis allaient chercher l'épouse chez ses parents. Ensuite, les époux revenaient à la maison de l'époux pour le repas de noces. Il semblerait qu'ici l'époux soit déjà allé chercher l'épouse chez ses parents et qu'il soit maintenant sur le chemin du retour. Toutefois, nous poussons pas trop loin avec l'image de l'Église en tant qu'épouse, car ceci ne fut principalement révélé par l'apôtre Paul un petit peu plus tard. L'Église sait que depuis 2000 ans, Jésus doit revenir. Et pourtant, certaines églises, comme parfois certains chrétiens, sont devenues léthargiques et un peu assoupies, comme nous est dit dans la parabole des 10 vierges. Il n'attendait plus impatiemment le retour imminent du Seigneur. Ils vivent comme le monde, et en conséquence, peu de gens témoignent efficacement du retour du Seigneur. Elle n'était pas prête au retour du Seigneur. Elles étaient prêtes plutôt à aller à la plage et de s'assoupir sur la plage. Elles n'attendaient pas le retour du roi. L'huile des lampes nous rappelle l'huile utilisée dans le service du tabernacle dans le livre d'Exode au chapitre 27. L'huile est généralement un symbole de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu, mais nous pouvons penser que cette huile-ci est aussi un symbole de la parole de Dieu. L'Église devait être porteuse de la parole de vie dans ce monde de ténèbres. Comme le faisait le réformateur Martin Luther en 1517, seule l'Écriture, sola scriptura. Nous devons garder la parole de la persévérance et continuer à annoncer le retour de Jésus-Christ. Quand les époux arrivèrent à la moitié, les jeunes filles étaient incapables de rallumer leurs lampes, car elles n'avaient plus d'huile. « Nos lampes sont-ils en train de s'éteindre ? » crièrent-elles. Les jeunes filles qui avaient de l'huile pure allumaient leurs lampes et faisaient briller la lumière. C'est elles qui entrèrent dans la salle de noces et non les filles étourdies qui n'avaient pas d'huile. Ceci suggère que tous ceux qui affirment être chrétiens n'iront pas au ciel, car certains n'auront pas vraiment cru de manière sincère à Jésus-Christ. Sans l'Esprit de Dieu et sa parole, il ne peut y avoir un vrai salut. L'invitation de Dieu résonne au travers de toute l'Écriture. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Demain pourrait être trop tard. Des multitudes seront perdues pour avoir trop remis la question du salut à plus tard. Le verset 12, dans ce passage du chapitre 25, nous rappelle un jugement de la part de Dieu. « Je ne vous connais pas ». Ce sont certainement des paroles les plus effrayantes que l'on puisse entendre de la bouche de Jésus. Il ne connaît pas ceux qui ne le reconnaissent pas. Jésus termine cette parabole avec l'avertissement qu'il avait déjà prononcé. Veillez donc. Voilà encore une exhortation pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes des personnes qui veillons? Sommes-nous prêts au retour de Jésus-Christ? Troisième exhortation de la part de Jésus. Être un serviteur productif. Je suis dans le chapitre 25, les versets 14 et 30. C'est la parabole des talents. Vous avez dans cette parabole des serviteurs productifs et d'autres serviteurs improductifs. Cette parabole n'est pas à confondre avec la parabole des mines dans l'évangile de Luc au chapitre 19, bien que les deux paraboles aient des points communs. Notez que chaque serviteur de cette parabole reçut l'argent d'après ses capacités. Un talent correspondait à environ à 20 années de travail. L'homme très capable reçut 5 talents, l'autre reçut 2 talents et le dernier en reçut un talent. Dieu accorde du travail et des occasions de servir en fonction des capacités reçues. Un ministère nous a été attribué. Nos capacités et les dons que Dieu nous a donnés, c'est notre privilège de servir Dieu et de faire multiplier ses biens. Les trois serviteurs appartiennent à deux catégories, les fidèles et les infidèles. Les serviteurs fidèles prirent leurs talents et les mirent au profit pour le Seigneur. Les serviteurs infidèles, le serviteur infidèle cacha son talent dans la terre. Au lieu d'utiliser les occasions données, il les enterra. Il ne commit pas de mal délibérément, mais par son inactivité, il péchait et privait son Seigneur de son service et d'un profit. Deux applications sont à noter ici. La première implication importante, ce que nous avons vient de Dieu. Il lui appartient. Ce sont ses biens et non pas notre possession que nous sommes appelés à gérer. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous fait différents les uns des autres. Et cela pour notre plus grand bien. Nous ne pouvons ni nous en vanter, ni nous en plaindre. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. L'église de Corinthe avait besoin d'entendre ce conseil. Plusieurs leçons importantes sont à révéler dans l'exemple de cet homme et de sa condamnation. Notons d'abord la sévérité de son jugement. C'est une chose grave que de mal utiliser les biens que Dieu nous a accordés. Pour le chrétien, la tentation existe constamment de se lasser de son ministère pour s'occuper davantage des propres intérêts, de ses propres intérêts et de vivre pour lui-même. Il doit s'en garder. Il doit persévérer et faire le bien, à servir son maître, parce qu'il sait que les dons qui lui sont donnés lui seront enlevés s'il ne les utilise pas. Ce mauvais serviteur, par son manque total d'intérêt dans les affaires de son maître, révèle un cœur d'un homme séparé de Dieu et destiné aux ténèbres du dehors, qui ne veut pas dire perdre son salut. Relevons les raisons du jugement. Première raison, le serviteur était premièrement égoïste. Il ne s'intéressait pas au bien de son maître. Il ne croyait sans doute que ce dernier serait trop occupé pour se pencher sur l'utilisation qu'il aurait fait de son talent. Il l'enterra et l'oublia jusqu'au jour où le maître lui demanda d'en rendre compte. Chacun d'entre nous devront un jour rendre compte à Dieu de notre vie. Deuxième raison, le serviteur était aussi paresseux. Il ne fut pas condamné pour le mal qu'il avait fait, mais justement parce qu'il n'avait rien fait pour craindre de mal faire. Il a préféré aller à la plage. Apprenons par là que la vie chrétienne consiste non seulement à éviter le mal, mais à faire le bien. Troisième raison, le serviteur avait de l'antipathie envers son maître. Pour lui, son maître était trop cruel et sans scrupule, moissonnant où il n'avait pas semé. Cette conception était complètement erronée car le maître aimait ses serviteurs et il désirait partager avec eux sa propre joie. Ses excuses révèlent donc, malgré une façade de service, un cœur de révolte et éloigné de celui de son Seigneur. Quatrième et dernière exhortation de la part de Jésus, c'est le retour du Fils de l'homme, le jugement des nations, chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, versets 31 à 46. L'Évangile de Matthieu contient de nombreux passages concernant le jugement. On l'a même souvent appelé l'Évangile du jugement. Il n'est donc pas surprenant de trouver dans le dernier grand enseignement de Jésus en Matthieu que Jésus s'y rapporte à ce jugement de la fin des temps. Ce passage, en effet, achève la présentation de la royauté de Jésus assis sur son trône et jugeant les nations de la terre. C'est d'ailleurs la seule occasion dans la Bible où Jésus se sert lui-même du titre de roi pour décrire bien qu'il l'acceptait des autres, par exemple dans Luc chapitre 19 verset 38. La conclusion de ces exhortations de ce matin. Sommes-nous des serviteurs fidèles et prudents? Sommes-nous des témoins prévoyants? Sommes-nous des serviteurs productifs pour le Seigneur? J'aimerais conclure par quelques versets. L'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les croyants comme suit. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Jacques va donner aussi son conseil à l'Église. Jacques chapitre 5, verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et l'apôtre Pierre, aussi va écrire de ses mains, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres et vaquez à la prière. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Voici ces quelques exhortations qui terminent la prophétie de la part de notre Seigneur au chapitre 25. La prochaine fois, nous aborderons le chapitre 26. Je termine par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour ces moments où on a pu regarder dans la parole. Ô Seigneur, il y a beaucoup de choses à retenir dans ces quelques textes, dans ces quelques versets. C'est vrai que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps difficiles. Mais en même temps, cela nous rappelle que le jour du Seigneur est proche. C'est le jour de la repentance, nous dit le Seigneur dans sa parole. Et je crois que nous avons besoin de comprendre cela dans notre quotidien. Si le jour est proche, si le Seigneur revient bientôt, et je le crois, que nous puissions être prêts, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, à ce retour glorieux de notre Seigneur. À toi en revient toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen.